Chapitre 7. Bien que la salle commune soit bondée, on n'entend pratiquement rien, sauf le son du grand écran qui diffuse un téléfilm mal doublé. Une musique grossière souligne les regards entendus qu'échangent ceux qui en savent plus que les autres. Ça sent le non-dit à plein nez. C'est sûr, ça va dégénérer avant la pub. Je traverse la zone d'activité de la maison de retraite comme un funambule. Certains résidents regardent la télé, beaucoup somnolent devant, d'autres jouent par petits groupes à des jeux de société. On dirait qu'ils bougent au ralenti. D'un mouvement de tête poli, je salue ceux qui me reconnaissent. Papillot se tient debout devant la baie vitrée donnant sur le jardin. Il m'attend. Je lui rends visite chaque semaine et je lui parle au téléphone presque tous les soirs. Je ne manque jamais de lui rappeler la date de ma prochaine visite, mais cela ne l'empêche pas de patienter là, tous les jours, après le déjeuner. Ça me bouleverse. Il ne veut même pas s'asseoir. Quand les infirmières lui proposent un siège, il répond que ce n'est pas la peine, car je vais arriver d'une seconde à l'autre. Quand j'y pense, les larmes me viennent. Il reste là des heures, comme un chien qui guette le retour de son maître, comme un gamin qui fixe la porte, parce que ses parents ne sont pas encore venus le chercher, comme une femme qui avait rendez-vous et à qui le serveur annonce que le restaurant va fermer. L'absence est un poison universel dont personne ne sait fabriquer l'antidote. Papillot prend sa dose de solitude tous les jours. Sur chaque case du calendrier, il occupe la même place, à la même heure, jusqu'à ce que j'arrive ou que la nuit tombe. Elle vient malheureusement plus souvent que moi. Quel que soit mon emploi du temps, au moment où il prend son poste de vigie, une horloge intérieure m'envoie un signal et me transporte auprès de lui par la pensée. Où que je sois, je l'imagine seul, devant sa fenêtre, et je voudrais pouvoir être auprès de lui. Je suis le seul à venir le voir. J'ai bien essayé de lui expliquer, d'en parler avec les auxiliaires de vie pour qu'elle le raisonne, mais rien n'y fait. Il se poste toujours au même endroit et s'use les yeux. On me dit qu'il n'a plus toute sa tête, mais je ne suis pas d'accord. Attendre, même pour rien, n'est pas un signe de dégénérescence. C'est simplement le sort douloureux de tous ceux qui espèrent être rejoints. Quand je l'aperçois de dos, quand je vois ses épaules, sur lesquelles je me suis si souvent juché, désormais voûté, ses cheveux blancs clairsemés, je me rappelle d'abord tout ce que je lui dois. Cet homme a tellement fait pour mon frère et moi. À l'époque, je le voyais si grand, avec une solution pour chaque problème. C'est grâce à lui si j'ai pu me construire, malgré ces coups de chausson du destin. Pour ne pas le surprendre, je m'approche par le côté. « Bonjour, grand-père. » Il plisse les yeux, puis se met à sourire. Il me désigne soudain le jardin et demande. « Je ne t'ai pas vu arriver, par où es-tu passé ?» Comme chaque fois, je lui indique l'autre côté du bâtiment. Par l'entrée du parking? Bien, bien. On s'installe à notre place habituelle, côte à côte, devant une petite table à l'écart. C'est le début de notre rituel. Je vais lui proposer d'aller chercher sa boisson favorite au distributeur, un jus de pomme chimique et gazeux. Il en raffole. C'est toujours le même cirque. À la première gorgée, son regard s'anime et il fait la tête d'un babacool qui découvre les effets des champignons hallucinogènes. À la moitié de la canette, il finit par reprendre son calme et passe à la phase suivante. En me montrant discrètement les autres pensionnaires avec une moue désapprobatrice, il me glisse qu'il ne comprend pas que l'on puisse perdre son temps avec ces jeux vains. Perdre son temps. Voilà une expression dont on ne devrait jamais oublier le sens. Papillot promène son regard sur ses « collègues », comme il les appelle, il les trouve vieux. Il va ensuite encore me demander quand est-ce qu'il sortira de cet hôpital, parce qu'il se sent bien mieux et n'a plus rien à y faire. Sans pour autant mentir, je vais éviter de lui faire de la peine. Je suis passé maître dans ce domaine. À force de visites, j'ai développé tout un arsenal de réponses parfaitement adaptées. Une fois ces premières étapes franchies, il attaque les figures libres. Il semble très en forme aujourd'hui. Comment va ton petit Julien? Il doit être grand maintenant. Il marche? Un peu qu'il marche. Il a 29 ans, Julien. C'est mon frère cadet, mais Papillo s'obstine à le prendre pour le fils que je n'ai pas. D'ailleurs, il m'appelle régulièrement Jean-Michel, me confondant avec mon père. Quand je vous dis que notre cerveau est prêt à inventer n'importe quelle histoire pour échapper à ce qui le fait souffrir. Cela n'empêche pas Papillo d'être capable de vous sortir tout à coup une vérité absolue, semblant lire en vous comme dans un livre ouvert. Au début, ce joyeux mélange me déstabilisait, mais maintenant, je gère. Je réponds sans entrer dans son jeu, et il entend ce qu'il veut. Julien va bien. On s'est parlé la semaine dernière. Lui, sa femme et son fils t'embrassent. Il passera te voir dès qu'il pourra. Il ne l'a pas fait depuis un an, mais il habite loin et son métier lui impose beaucoup de déplacements à l'étranger. Papillo secoue légèrement sa canette pour jauger la quantité de liquide restant. Il semble satisfait de sentir qu'il a encore de la réserve. Je lui indique le jardin. Malgré le froid, tu arrives quand même à sortir pour marcher un peu ? Il hoche la tête comme un enfant, content de raconter. La petite Sonia m'accompagne. Elle est gentille. J'aime bien quand elle me met mon écharpe. On fait un tour et on cause de nos vies. Moi, de mes souvenirs, et elle de ses projets. Son petit ami n'a pas l'air très gentil. S'il continue, j'irai lui dire deux mots. Je l'observe. J'aime le dévisager. Sa peau est ridée, mais dans ses yeux, je retrouve cette étincelle de malice si particulière. Dans ce corps fragilisé, s'exprimant à travers les plus infimes de ses gestes, l'homme qui m'a sauvé est encore là. Je ne viens pas uniquement pour lui faire plaisir ou par sens du devoir. J'aime passer du temps avec lui. Je me sens à ma place. Il est le seul aîné qu'il me reste. Le dernier survivant du temps où j'étais le petit. N'ayant plus aucun contact avec ma mère, il est l'ultime dépositaire de mes regards tournés vers les grands. Contrairement à celle qui m'a porté, lui a toujours été là pour moi. En roulant pour venir, je me suis demandé comment lui annoncer ce qui m'arrive. À part lui, je n'ai personne de plus âgé à qui me confier. Personne pour me conseiller, personne vers qui me tourner pour obtenir un peu de sagesse ou de réconfort. J'ai essayé d'imaginer comment lui parler de mon état. J'ai même répété différentes versions à haute voix. Rien de convaincant n'en est sorti, et pour cause. Quelle que soit la forme, qu'il me prenne pour son fils ou pour n'importe qui d'autre, la nouvelle l'anéantirait. Le maigre réconfort que pourrait m'apporter le fait de la partager lui coûterait trop. J'en suis sereinement arrivé à la conclusion que j'allais garder ce fardeau-là pour moi et ne rien lui dire. Il a eu son lot. Il a perdu son fils. Dans la foulée, il a vu sa belle-fille s'éloigner et tout faire pour l'oublier. Mamette et lui se sont retrouvés avec deux jeunes garçons à élever, à tout assumer sur tous les plans, alors qu'ils devaient être brisés de douleur. Chaque jour, notre présence a dû leur rappeler cruellement celui qui n'était plus là. Lui n'en a jamais rien laissé paraître. Papillo n'a jamais rien fait peser sur nous. Même quand Mamette est tombée malade. Il s'est toujours montré enjoué, positif, impliqué, nous poussant constamment à aller de l'avant. Il n'a pas seulement été un second père pour Julien et moi, il a surtout été une chance extraordinaire sans laquelle nous serions partis en biais, moi le premier. Alors aujourd'hui, malgré le poids de ce qui m'attend, je ne vais pas m'en décharger sur ce brave homme. Il ne peut rien pour moi. Ce n'est pas grave. Il a déjà fait plus que sa part. Je crois d'ailleurs que je ne vais parler de ce qui m'arrive à personne. À quoi bon plomber les autres? Cela m'épargnera d'avoir à gérer en plus les tristesses de principe et les jérémiades de certains, alors que je vais tout faire pour faire taire les miennes. Pendant que nous discutons de tout et de rien, je considère les résidents qui nous entourent. Finalement, il y a de bonnes chances pour que la plupart me survivent. Un constat surprenant qui va à l'encontre de toutes les statistiques, mais c'est ainsi. D'une oreille distraite, j'écoute Papillot qui m'explique, comme il le fait souvent, tout l'intérêt d'entretenir les machines à laver plutôt que d'en racheter de nouvelles. Lorsque je me tourne à nouveau vers lui, il accroche soudain mon regard et, changeant radicalement de ton et de sujet, me demande « Sais-tu à quel moment notre époque est devenue folle ?»« Quand ils ont classé les télés parmi les biens de première nécessité ?»« Pas loin. On a commencé à marcher sur la tête quand les pièces de 50 centimes sont devenues plus grandes que les pièces de 1. La moitié plus grande que le tout. C'est insensé. Comment prendre au sérieux une époque qui croit que Dieu est mort et que Michael Jackson est toujours vivant ? » Il ne me lâche pas du regard et, comme s'il devinait ce qui me préoccupe, ajoute « Tu sais, mon garçon, on confond souvent vivre vieux et avoir une belle vie. La durée ne compte pas. C'est l'intensité qui fait tout. Quoi que tu affrontes, n'oublie jamais qu'exister est une chance. Profites-en de toutes tes forces. »